Lire, lire. À quoi ça sert finalement ?
À quoi bon ?
Ouais, franchement, enfin, quand même, ça fait un peu voyager.
Et puis, ça fait rêver.
Ça ouvre les fenêtres et l'esprit.
Ça rend plus fort.
Ah ouais, tu crois vraiment ?
Non, je suis pas sûr sur celui-là.
Peut-être ça élargit la vision qu'on peut avoir du monde, tu crois pas ?
Ah bah ça c'est sûr.
Ouais. Et puis, tu crois que ça rend plus beau ?
Eh ben je sais pas, il faudrait essayer peut-être.
Ah, il faut essayer. Mais surtout, lire des livres. Bonjour à toutes et à tous. Alors ici Paz, on se retrouve pour un lire des livres. Et aujourd'hui en compagnie de Marie Aulne pour une nouvelle publication. Ben, je vais vous laisser la présenter peut-être.
Alors c'est une BD à lire à partir de 12 ans, jusqu'à pas d'âge, qui s'intitule « C'est aujourd'hui dimanche », que j'ai donc scénarisée et Clémentine Pochon a illustré aux éditions Les Enfants Rouges. Voilà, c'est paru en août.
Marie Aulne, c'est un nom qui me dit quelque chose. Vous ne seriez pas déjà passée sur les ondes de Radio Aldigès ?
Je suis venue peu après la sortie de mon roman Zone 2 aux éditions Yuka, qui évoquait la vie à côté de Tchernobyl aujourd'hui. Voilà, la vie d'un groupe de jeunes, notamment.
Mm-hmm. Avec les difficultés qu'on n'imagine peut-être pas vraiment ici en France, un peu loin du nuage et de...
Difficultés matérielles, difficultés au niveau de la santé. Et puis comment la nature s'est transformée suite à cette catastrophe.
Mmh. Alors c'était un roman. Oui. Cette fois c'est donc une bande dessinée.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait que ce nouvel ouvrage ne soit pas un roman ?
Alors, entre-temps, il y a eu une autre BD. C'est pour ça déjà que j'avais travaillé ce support, toujours aux Enfants Rouges, qui s'appelle Pierrot aux poches crevées. Et c'était une histoire d'amour. Mais c'était par hasard, parce qu'au départ, c'était un texte en prose que j'avais envoyé aux éditions Les Enfants Rouges. L'éditrice a adoré, elle m'a dit « Ok, on en fait une BD ». Voilà. Et j'ai découvert l'existence du camp de Brenz, puisque c'est le sujet de cette BD, c'est aujourd'hui dimanche, pour moi, il était évident qu'il fallait que ce soit une BD, qu'il fallait que ce soit visuel. On en parlera peut-être après. C'est pour ça que je suis partie pour travailler sur un support BD.
Voilà. D'accord. Et donc la précédente, ça s'était fait comment, ces rencontres avec, j'imagine, un illustrateur ou une illustratrice ?
Alors, je ne l'avais pas rencontré encore. Je l'avais découvert parce qu'il venait... C'était un jeune BDiste, moi je dis, mais je ne sais pas si on peut dire comme ça. J'avais découvert son travail sur Facebook, parce que c'est quand même un bon outil de temps en temps, ça sert pas mal à rencontrer les gens. Et j'avais adoré son trait. Donc lui, sa BD sortait aux Enfants Rouges. J'ai écrit à l'éditeur, à l'éditrice. Je lui ai dit, voilà, j'ai un texte et j'aimerais beaucoup le travailler avec Mathieu, du coup, Mathieu Bertrand, s'il est d'accord et si le texte vous plaît. Et voilà, et ça s'est fait tout naturellement.
Mmh. Voilà. Et cette fois-ci, c'est pareil, vous connaissiez Clémentine ?
Alors du coup, Clémentine avait rencontré Mathieu en salon parce qu'elle sortait une BD avec une autre autrice. Et lui présentait Pierrot sur un salon et elle m'a envoyé un message en me disant « j'adore ton écriture ». Enfin, elle m'a fait une superbe déclaration d'amour. Mmh. Et elle m'a dit « j'aimerais vraiment travailler avec toi un jour ». Et je découvrais le camp, donc je lui ai dit « écoute, je suis sur quelque chose mais je ne sais pas ce que ça va donner ». J'avance un peu et puis quand je suis prête, je te l'envoie et on voit ce que ça donne. Et voilà, et pareil, tout naturellement, comme quoi, quand les choses doivent se faire, voilà.
tout se combine pour que ça fonctionne bien.
Oui, c'est vrai, vraiment. Mm-hmm.
Alors cette BD, elle part d'une balade autour de Gaillac.
Oui.
Vous avez découvert quelque chose.
Oui, j'ai découvert une stèle en mémoire des femmes internées au camp de Brins pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945.
Voilà. Elle se trouve où exactement cette stèle, si on veut la trouver?
Alors, quand on sort de l'autoroute, en venant d'Albi, on sortit Gaillac, on passe un rond-point et puis on descend. Et avant d'arriver sur le pont qui entre à Gaillac, à côté de l'abbaye Saint-Michel, donc avant le pont, on a sur la gauche un grand mur tagué avec un portail. Voilà, c'est assez défraîchi, ça a l'air abandonné. Et au bord de la route, devant ce mur, il y a la stèle. Donc, qui est au sol, donc on ne la voit pas de la voiture forcément quand on conduit, parce qu'elle est vraiment au sol, elle fait bon, allez, 80 cm de hauteur, dans le marbre, couleur gris, donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément attiré par...
Ça reste très discret.
Oui, ça reste discret, voilà.
Discret, on peut peut-être garder le mot, puisque cette histoire du camp de Brins, vous avez découvert, vous me disiez tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a des professeurs d'histoire qui n'ont pas entendu parler de ce camp.
Oui, voilà. Alors, moi, le début de mon livre, je parle de ça, du fait que j'ai grandi à Albi, je ne suis pas née ici, mais j'ai grandi à Albi, et jamais je n'ai entendu parler de camps de concentration, puisque c'est le terme, hein, c'est le terme qu'utilisent les personnes qui s'occupent de l'association, de camps de concentration, de rétention dans le Tarn. Bon, alors, moi je me pose la question, je me dis est-ce que je suis toute seule, et je pose la question autour de moi, et autour de moi on me répond la même chose. Et maintenant que le livre est paru, les gens de mon âge, ma génération, donc entre 30 et 40 ans, me disent je n'ai jamais entendu parler de ce camp, pourtant j'ai grandi ici. Voilà. Donc il y a toujours ce même problème qu'on a sur plein de sujets, de la transmission. Et la transmission de l'histoire ne se fait pas non plus.
Voilà. Donc vous avez découvert l'existence de ce camp.
Oui.
Et à partir de là, vous avez voulu en savoir plus.
Voilà.
Donc,
donc j'ai fait des recherches sur Internet. Il y a un groupe dont je parle dans le livre... Un groupe qui s'appelle Mémoire du Tarn, ou un truc comme ça, où ils partagent beaucoup de photos d'autrefois. Je trouve ça rigolo parce qu'on voit des vieilles photographies, des vieilles cartes postales locales. Donc, je trouve ça intéressant. Et voilà, je leur pose la question, est-ce que vous connaissez ce camp? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et oui, effectivement, donc les plus anciens répondent, effectivement, qu'ils connaissent. Et là, je demande s'il existe encore, s'il y a encore des femmes vivantes qui ont été internées. Parce que c'était un camp de femmes et d'enfants. Voilà. Seulement, les enfants, on ne peut pas les retrouver parce que dans les registres du département, puisque c'était un camp donc réquisitionné par la préfecture, donc les registres sont maintenant au département, les enfants étaient signifiés par des croix, pas par leur prénom. Donc il y avait le nom de la mère, la raison de l'internement, une raison qu'elles ne connaissaient pas. Hein. Il n'y a que les autorités qui savaient pourquoi elles étaient là. Et le nombre d'enfants, donc, avec un nombre de croix. Voilà. Donc, c'est très difficile de retrouver. Si les gens ne viennent pas vers l'association qui s'occupe aujourd'hui du souvenir de ces femmes internées...
Donc, ce que vous souhaitiez, vous, c'était vraiment avoir le témoignage de quelqu'un...
De quelqu'un qui a été interné. Et ça a été très très long, voilà. Donc entre-temps, j'ai rencontré les personnes de l'association, j'ai fait des recherches sur le camp, et au bout d'un moment, je reçois un message, donc via Facebook toujours, d'un monsieur qui me dit « ma maman y était ». Par ce groupe en fait, le groupe de mémoire du Tarn, donc ce monsieur est inscrit sur le groupe, il me dit « ma maman y était avec sa mère, elles ont été internées, et maman avait 12 ans ». Donc en 1942, voilà.
Donc là, vous prenez contact.
Et donc
avec
là, il
cette
me donne
personne.
Son numéro de téléphone et j'appelle à Hélène, donc sa maman, et je lui dis voilà, je veux venir vous voir pour qu'on parle du camp. Et elle me reçoit très gentiment, avec plein d'énergie. C'est une mamie pleine de peps, voilà, qui adore danser, qui adore la poésie. Je vais lui poser des questions sur le temps qu'elle a passé là-bas. Elle n'y a pas passé beaucoup de temps. Ses souvenirs sont très flous parce qu'elle m'explique, hein, c'est ce qu'elle me dit. « Maman m'a beaucoup protégée. » À 12 ans, on n'était pas aussi éveillé qu'aujourd'hui, donc on se rendait pas compte de ce qui se passait autour de nous. Donc elle me raconte l'arrestation, elle me raconte la fouille, elle me raconte le quotidien, elle me raconte Edwige, mais elle ne sait pas en quelle année exactement elle a été là-bas. Elle me dit, je n'ai pas eu froid. Donc je mets un cadre autour de mon histoire et je me dis, bon, elles ont été à peu près un an. On ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas pourquoi elles sont sorties non plus. Moi, il faut que j'invente autour de ça, quoi. Voilà. Et pour moi, c'était important de le mettre en 1942, parce qu'en 1942, il y a les rafles des Juifs. Les Juifs sont envoyés à Auschwitz. Mmh. Voilà. Par deux fois. Donc je ne me souviens plus du nombre exact, mais plus d'une centaine...
Oui, parce qu'au début, dans ce camp, il n'y avait pas forcément des Juifs.
Voilà, au départ. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, et qui fait résonance avec l'actualité, c'est qu'au départ, c'est un camp de réfugiés. C'est un camp ouvert qui accueille des réfugiés espagnols qui fuient le Franco qui prend le pouvoir. Donc c'est un camp ouvert. Et puis ensuite, il va y avoir les Juifs de Pologne qui vont arriver. Et puis finalement, en 1942, le camp est fermé et c'est les internés de Rieucros qui arrivent. Donc là, des femmes politiques et juives. Voilà. Ça, c'est intéressant, je le mets dans les notes de fin, le glissement sémantique du camp de réfugiés jusqu'au camp de concentration. L'air de rien, comme ça, on change un mot et puis petit à petit, les taux se referment, quoi. Mmh. Voilà.
Et alors, ce livre, vous l'avez intitulé « C'est aujourd'hui dimanche ».
Oui.
Vous pouvez dire pourquoi ?
Parce qu'au départ, ça devait s'appeler « Les roses blanches ». « Les roses blanches », c'est la chanson que chante Hélène dans la baraque le soir aux femmes. Sauf que les roses blanches, l'éditrice m'a dit « Marie, ça va pas, il y a trop de livres avec le mot rose, avec le mot blanche. Enfin, » elle a fait un test autour d'elle et elle m'a dit « On va l'appeler, c'est aujourd'hui dimanche. Mmh. » Voilà. Donc au départ, ça a été un petit peu... c'était tellement ancré, autant pour Clémentine que pour moi, c'était tellement ancré rose blanche que ça a été un petit peu difficile. Et puis finalement, pourquoi pas.
C'est le début
de la chanson. Donc de toute façon, ça parle à ceux qui connaissent.
Et alors, à mon avis, il y en a quand même pas mal qui ne doivent pas connaître. Et ce serait peut-être le bon moment pour justement lancer la chanson.
C'était un gamin, un gosse de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère, une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement, il le disait en les lui donnant. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie maman. L'an dernier, le destin brutal va frapper la blonde ouvrière. Elle tomba malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, tout tremblant, le pauvre mioche, furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ses roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ses roses blanches pour ma jolie maman. La marchande émue doucement lui dit: emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant tout bas, une infirmière lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin s'agenouillant dit devant le petit lit blanc: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Et quand tu t'en iras là-bas, toutes ces roses blanches, tu les emporteras.
Voilà une chanson qui m'arrachait des larmes quand ma grand-mère me la faisait écouter. Mais bon, cette chanson, elle vient pas du tout par hasard. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette chanson-là ?
Alors, cette chanson, donc Les Roses Blanches, c'est la chanson que chantait Hélène le soir dans la baraque. Bah, pas tous les soirs, mais elle se souvient l'avoir chantée régulièrement aux femmes de la baraque. C'est un soir où parmi tant d'autres, où elles sont toutes ensemble et puis elles demandent qui veut chanter. Il y a quand même quelqu'un qui fait le guet dehors, hein, pour vérifier que les gardiennes et les gardiens. Mais je crois qu'il y avait que des gardiennes. Les gardiens n'étaient pas sur le camp. Ils étaient dans un bureau. Donc pour vérifier que les gardiennes n'étaient pas là. Et donc on demande qui veut chanter. Et la maman dit à Hélène: vas-y, toi, tu as une belle voix et va leur chanter Les Roses Blanches. Voilà. Et la deuxième fois, c'est après la rafle où elles sont toutes malheureuses et où elles chantent une berceuse en polonais. Voilà, puisqu'elle est d'origine polonaise. Et sa maman aussi est polonaise. Et donc, elle pense que c'est pour ça qu'elles ont été internées, parce qu'elles sont polonaises et qu'elles n'avaient pas des papiers français.
Voilà. Oui, c'est ce qui est dit dans la BD. Elles sont internées juste parce qu'elles sont polonaises.
Voilà. Parce qu'en plus, elles ne sont pas juives, parce que les polonaises juives étaient internées d'office, puisqu'elles étaient juives, alors qu'elles, elles sont catholiques.
Voilà. Sinon, elles ne seraient sans doute pas sorties.
Et elles seraient peut-être parties à Auschwitz, avec les autres juives.
Mmh. Oui, oui. Mmh. Donc cette petite fille, qui est avec essentiellement des femmes,
oui,
dont des mamans qui ont été séparées de leurs enfants,
tout à fait.
Elle a quand même, on peut dire, cette chance, enfin cet avantage d'être avec sa maman, oui, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'a protégée, a essayé de lui rendre la vie la plus douce possible dans ce camp. Et bah, quand elle chante sa chanson, hein, vous l'avez dit, on surveille que les gardiennes ne soient pas dehors pour entendre chanter. Voilà, si on chante, c'est qu'on est bien, qu'on est joyeux, et il va y avoir forcément une punition derrière, oui, puisqu'à un moment donné, elles sont à la distribution de la soupe,
oui,
et elles se mettent à rire, et là, qu'est-ce qui se passe ?
Ben, la gardienne renverse la soupe à leurs pieds, voilà. Donc elles ne peuvent pas manger.
Et donc pendant 2 ou 3 jours...
Oui.
Elles n'auront pas à manger pour rappeler quand même qu'elles ne sont pas là pour rigoler.
C'est ça.
Et malgré tout, on leur demande d'organiser des spectacles.
Oui, alors c'était une tradition déjà à Rieucros, hein, voilà, en Lozère. Donc c'est le camp qui ferme en 1942 et les femmes de Rieucros arrivent à Brins. Elles ont le droit... de faire des spectacles, mais ils ne sont pas toujours en représentation extérieure, ces spectacles-là. Hein, mm-hmm. C'est souvent entre elles. Voilà. Elles ont le droit de jouer du piano. Notamment, il y a une pianiste qui est là et qui donne des concerts qui sont retransmis par radio dans les baraques pour que les femmes qui ne peuvent pas se déplacer entendent la musique. Voilà, au départ, c'est assez libre. Elles ont le droit de réciter du Molière, du Victor Hugo quand il est en exil. C'est des textes quand même assez engagés. C'est toléré. Et donc, elle s'accroche à ça, puisque l'art et le beau leur permet de rester dignes et humaines pendant que leur vie est suspendue dans ce camp. Donc voilà, elles montent des spectacles, elles ont des costumes qui ont été dessinés et créés par les internés. Elles écrivent des poèmes, elles aussi, qu'elles récitent, des poèmes du coup anonymes, parfois signés, mais bon, pas tous. Et donc voilà, c'est surtout pour elle. Et puis il y a eu une ou deux fois, voilà, c'est l'exemple que je prends dans le livre, où c'est un public. C'est un public, et donc notamment pour la fête des mères en 1942, où à la fin, certaines femmes vont un petit peu se révolter en disant « libérez les mères » pour que les mères qui ont été séparées de leurs enfants puissent ressortir. Il y a une petite altercation ensuite. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas repris exactement, j'ai un petit peu modifié la fin, mais j'ai toujours ce passage où elles se révoltent et où il y a l'altercation ensuite. Mais comme me disait... Hélène et Nuria, donc avec qui j'ai eu un entretien téléphonique et qui est la dernière femme connue toujours vivante que j'ai retrouvée ensuite.
Elle était adulte à ce moment-là.
Elle avait 16 ans, mais elle était considérée comme adulte. On en reparlera peut-être après parce qu'elle était amie avec Angelita, qui était une résistante et qui, elle, avait 16 ans aussi. Angelita a été enfermée seule en tant qu'adulte, alors que Nuria a été enfermée avec sa maman parce qu'elles étaient espagnoles. Donc, elles étaient quand même considérées comme jeunes adultes. Tant que les internés respectaient le règlement, il n'y avait pas de violence de la part des gardiennes. S'il y avait un souci, elle pouvait être en isolement, mais il n'y a jamais eu de frappe, à part donc après ce spectacle-là, donc de mai 42, et quand l'ami de Nuria, enfin a priori quand lors de la rafle des Juives, la première rafle, il y a eu une altercation également, puisque Nuria se souvient que il y avait une copine à elle qui était juive, qui a été tirée par les cheveux jusqu'au camion.
Ouais, ça c'est dit
dans les notes de fin. Voilà. Alors je n'ai pas, j'aurais pu faire le livre finalement avec Nuria, mais je l'ai connue que trop tard. Et puis pour moi c'était très intéressant d'avoir quand même les souvenirs d'une enfant pour pouvoir capter l'attention du public adolescent. Voilà. Pour refaire cette transmission qui n'a pas été faite.
Mmh, tout à fait. Bon, alors à l'époque, donc l'héroïne a 12 ans et elle se présente pas, enfin elle semble pas être comme une adolescente d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le terme devait sans doute pas exister. Elle était même pas pré-ado. Elle se considère vraiment comme une enfant.
Oui. À 12 ans, on termine son certificat d'études, hein, donc ce qui correspond au CM2 aujourd'hui.
Oui, et d'ailleurs, dans le camp, il y a de l'enseignement qui est proposé aux enfants, mais comme elle a terminé, elle ne va pas y participer, elle préfère rester avec sa mère et participer aux activités des femmes.
Voilà.
Bon, donc on a dit qu'elles avaient l'occasion de pratiquer la musique, le théâtre, mais il y avait quand même du travail aussi qui leur était imposé.
Oui.
Ce n'était pas qu'un camp de vacances.
Non, non. Drôle de vacances derrière les barbelés en plus. Mais oui, voilà, c'était du travail. Alors, pour les Allemands, pour on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Mais finalement, c'était sûrement... C'était un peu comme le travail obligatoire pour les hommes, quoi. Voilà. Mmh, mmh. Donc, des petits boutons faits à partir de branches d'arbres, des choses en raffia, donc des sacs, des boîtes... confection de chaussures aussi, et puis réparer des chaises, voilà, faire de la vannerie. Ouais. Et ça rythmait leur journée, plus évidemment les repas qu'elles préparaient elles-mêmes, enfin les repas, la soupe. Et du coup, j'ai appris plus tard qu'il y avait pour en partie, alors je ne sais pas si c'est en totalité, mais en partie des légumes qu'elle cultivait, elle. Du coup, apparemment, certaines femmes étaient autorisées. Alors, je l'ai su sur un salon. C'est un monsieur qui m'a dit, oui, mes parents m'ont raconté que certaines femmes de Brins avaient le droit de sortir pour aller cultiver leurs légumes pour se nourrir. Et après, elles rentraient dans le camp, voilà. Donc sous surveillance. Mm-hmm. Voilà. Mais alors, dans quelles conditions est-ce que c'était les plus sages ou... plus obéissante, on devrait dire, d'ailleurs. Ou est-ce que c'était un roulement ou... Je ne sais pas du tout.
Donc, c'est intéressant, parce qu'une fois le livre sorti, publié,
oui, on pourrait l'enrichir.
Vous continuez à apprendre des choses, oui. Et éventuellement, vous pourriez en produire un autre...
Avec les souvenirs...
D'une autre personne.
Oui, voilà. Ou de témoins.
Mais bon, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes déjà sur d'autres projets.
Oui. Un roman, d'ailleurs, cette fois-ci.
Ah, vous pouvez nous en dire quelques mots ou c'est encore trop tôt ?
Ce sera sur les arbres. Voilà. Depuis la naissance de mon petit garçon, j'ai encore plus besoin de parler de nature. Et là aussi, je vais parler d'une tradition qui se perd, c'est l'étrogne, la taille les arbres taillés, qui était une tradition très importante jusqu'à ce que... Pareil, hein, la société de consommation décide qu'ils vont tout faire pour nous et qu'on a besoin de rien faire sinon d'acheter. Et donc, cette transmission-là s'est perdue aussi, sauf que c'était un équilibre très important entre les paysans, les gens qui vivaient à la campagne. Il ne faut pas dire les paysans, parce que tout le monde vivait à la campagne autrefois, si ce n'est ceux qui habitaient en ville, mais 80% de la population étaient des gens de la campagne qui avaient... une ou deux bêtes, un jardin, qui se suffisaient à eux-mêmes. Voilà, donc la vie à la campagne était en équilibre parce qu'on taillait les arbres au lieu de les couper. Mmh. Voilà. Donc cette taille régulière permettait d'utiliser le bois sans mettre en danger la forêt. Voilà, donc c'est un sujet très intéressant aussi et très vaste.
On attend ça avec impatience. Donc, merci. Ça sera un roman cette fois-ci, pas une BD.
Non.
Un roman, d'accord.
Là, c'était important pour moi de faire une BD parce que, dès le départ, en lisant les livres historiques, on voit qu'elles se raccrochent à l'art et au beau. Les femmes se raccrochent à l'art et au beau. Pour elles, c'est très important d'être coquettes. Elles n'ont pas de vêtements officiels.
D'uniforme.
D'uniforme, comme on voit dans les camps allemands. Enfin, parce que c'est les vidéos, les films qu'on a. Mais... Donc, elles s'habillent en civil, avec leurs vêtements.
Oui, elles sont arrivées avec une petite valise.
Voilà, c'est ça. Elles se raccrochent à tout ce qui est littéraire et artistique. Les prostituées mettent du rouge à lèvres. Enfin, je veux dire, ça, c'est on le retrouve. Voilà, c'est écrit... donc pour moi, il fallait que ce soit visuel. Voilà, il fallait qu'on voit tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de mettre en couleur les souvenirs d'Hélène et pas mes recherches à moi dans le présent. Mm-hmm. Pour qu'on voit cette importance de la couleur qui fait garder espoir, tenir malgré tout. Voilà. Ouais.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un camp dans lequel on a permis aux femmes de garder leur dignité, contrairement à Auschwitz, Birkenau, ou ce genre de camp ?
Et c'est pas un camp d'extermination, donc la finalité n'est pas la même. Malgré tout, et même si j'aime pas le terme, on est en zone libre.
Alors ça, c'est totalement paradoxal. Ouais, on est en zone libre.
Et il y avait presque 100 camps. Dans la zone libre. Enfin, on en a autour Ben, je ne suis pas historienne, alors pour le coup, ce n'est pas moi qui répondrai au mieux aux questions, mais si on cherche une carte, moi je l'ai, d'ailleurs je l'ai enregistrée sur mon téléphone, il y en a tout autour de la Méditerranée, près de l'Italie, évidemment, toutes les montagnes qui longent la frontière espagnole, le Pays Basque, on remonte Bordeaux aussi, voilà, enfin, des camps, il y en a, peut-être pas 100, mais...
Il y en a eu, faut pas l'oublier,
voilà. C'est ça.
Et il ne faut pas oublier non plus que les gardiens, les gardiennes de ces camps bah, étaient des gens, ce n'étaient pas des Allemands. Quoi.
Non, c'était des Français.
Voilà.
Mais toute la chaîne de ce qui s'est passé au niveau officiel, voilà, que ce soit tout descend de Vichy, de Pétain, mm-hmm. les décisions, c'est les préfets, les gardiens, oui, ils sont français, ceux qui travaillent pour les camps, que ce soit donc ceux qui apportent les légumes, ou, ils sont français aussi. Voilà, il y a eu une... Alors, la France est le pays qui a sauvé le plus de juifs de l'extermination, mais la France a aussi collaboré, il ne faut pas l'oublier. Voilà.
Bien sûr.
Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour...
Et vous n'avez pas cherché à rencontrer, genre, je ne sais pas s'il en existe encore, s'il en survit encore, des femmes qui auraient pu être gardiennes de ce camp ?
Je pense que là, il m'aurait fallu faire, si c'est possible, et si les personnes veulent encore témoigner, parce que... Le problème, il est là aussi, c'est que le secret, la honte est tellement forte qu'on se tait, on ne dit rien. Et donc, c'est difficile de... Si j'avais été en confiance avec quelqu'un, peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais réussi à tirer quelques informations. Mais là, on part dans un autre registre, hein, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Sans doute, ouais. Sans doute.
Voilà. Et puis, il y a... Il y a plein de... Enfin, là, je le dis dans le livre, même Angelita, qui est là, qui était donc internée dans le camp parce que elle était toulousaine, elle a été dans le groupe de ceux qui ont lancé des tracts anti-Pétain le jour de son défilé à Toulouse. Donc, c'est pour ça qu'elle est internée, sur délation, parce qu'ils avaient fait tout un système très ingénieux qui fait qu'on ne pouvait pas les retrouver. Elle était, je dis « eux », parce qu'il y avait... Angelita et des garçons. C'était plusieurs. Quatre, je crois, mais je ne suis plus très sûre. Et elle, voilà, elle, quand elle est âgée et qu'elle témoigne dans les écoles, il y a des enfants qui demandent si les gardiennes étaient gentilles, parce que c'était leur mamie, leur papy.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Mais ça ne va pas au-delà de ça.
Mm-hmm.
Ça reste secret, tabou.
Ouais, pas des choses sur lesquelles on revient facilement. Quoi.
Non.
Mmh. En tout cas, merci d'avoir publié cette BD. C'est aujourd'hui dimanche.
Alors, je vais juste rajouter une chose qui me paraît importante par rapport à la résistance, parce que ça, c'est par rapport à ce que m'a dit Nuria. Elle me dit, moi, quand je suis sortie du camp, j'ai un petit peu résisté, mais j'ai juste aidé les copains. Je faisais passer les messages à vélo. Mais alors, on oublie que dans la résistance, les femmes qui passaient des messages en vélo, c'est quand même le plus important, quoi. Parce qu'elles arrivaient à passer les barrages des Allemands. Et c'est grâce à elles que toutes les connexions ont pu être faites pour que les hommes, après, puissent faire les barrages, faire sauter les trains ou je ne sais quoi. Voilà.
Mais donc, elle a vécu ça comme quelque chose de pas très important.
Ah oui, pour elle, faire passer les messages en vélo, c'est juste une petite contribution comme ça. Mais non, les femmes résistantes, juste parce qu'elles étaient à vélo et qu'elles faisaient passer des messages, ont été très, très importantes.
Mm-hmm.
Voilà.
Bon, bah, donc, ouais, merci donc aux femmes qui ont porté témoignage, qui ont connu ça, qui ont porté témoignage, qui vous ont permis de réaliser le livre, en espérant que ça permettra de faire connaître plus largement.
Oui.
Aux jeunes, aux ados, voilà ce qui s'est passé.
À Brins et ailleurs dans la France libre, voilà, de Pétain.
Et alors avant qu'on ne se quitte, je vais peut-être vous poser une question. Est-ce que vous avez des événements où le public peut vous retrouver en dédicace pour avoir facilement ce livre-là et d'autres, hein, puisque vous en avez d'autres sous le coude, hein.
Oui, j'en suis à 8 là. alors, maintenant c'est plutôt novembre. Donc, le samedi 16, je serai au salon des éditeurs Terralire à la Tanor, à Albi. Le 17, au salon BD de Colomiers. Le dimanche 24 au festival de livres jeunesse de Pêche-Beaunieu, toujours dans la Haute-Garonne, à côté de Toulouse. Et le dimanche 1er décembre à Cordes, au salon du livre jeunesse. Voilà, pour les premiers événements. Et puis après j'ai fait une lecture à la ressourcerie, qui s'est montée derrière la VOA. Donc ce sera le samedi 7. Je ne sais plus si c'est 14h ou 15h. Enfin voilà, je ferai une lecture dédicace, une rencontre avec...
Et ça, c'est en novembre ou en décembre?
Non, c'est en décembre, le 7.
Le 7 décembre, d'accord.
Oui, voilà. C'est tout pour cette année. Après, c'est les vacances.
c'est déjà bien riche d'événements.
Voilà.
Alors, eh bien, merci à Marie-Aulne d'être venue.
Avec plaisir, grand plaisir toujours de venir vous voir.
Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à l'COP Québec.
Au revoir.
Lire. À quoi ça sert finalement?
À quoi bon?
Ouais, franchement, enfin, quand même, ça fait un peu voyager.
Et puis, ça fait rêver.
Ça ouvre les fenêtres et l'esprit.
Ça rend plus fort.
Ah ouais, tu crois vraiment?
Non, je suis pas sûr sur celui-là.
Peut-être ça élargit la vision qu'on peut avoir du monde, tu crois pas?
Ah bah, ça c'est sûr.
Ouais. Tu crois que ça rend plus beau?
Eh ben, je sais pas. Il faudrait essayer, peut-être.
Ah, il faut essayer. Mais surtout, lire des livres.